Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Voici une enquête criminelle de 2013, le meurtre d'Héloïse Bagnolini dans le Vaucluse. Une affaire dans laquelle vous allez retrouver un trio que vous connaissez bien, un mari, sa femme et sa maîtresse. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Oudouard, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
Le 11 octobre 2013, dans la matinée, Alain, qui habite à Aubignan dans le Vaucluse, reçoit un étrange message de sa compagne Héloïse. Très étrange. « Il va falloir que tu te libères tôt, car j'ai un empêchement pour aller chercher le petit à l'école. Vas-y, moi j'ai besoin de calme. » Il l'appelle tout de suite.
« Messagerie Orange, bonjour. »
Il la rappelle encore. Son téléphone a l'air d'être éteint. Et 100 fois, il relit ce message. « Vas-y, moi j'ai besoin de calme. » De calme, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce qui lui est arrivé? D'habitude, c'est elle qui va chercher le petit. Et puis en général, quand elle envoie un message, elle l'accompagne d'un chéri, d'un baiser à la fin. Et là, c'est sec, c'est froid. Ça ne lui ressemble pas. Alain rentre chez eux. La maison est normalement fermée à clé. Et l'alarme est enclenchée. En revanche, l'imposé, il y a son sac à main. Il fait le tour des placards. Tiens, il manque deux valises. Et là, carrément très inquiet, il décide d'appeler sa belle-mère, Sophie, la mère d'Héloïse, en se disant, pourvu qu'elle soit chez elle. Sophie? C'est Alain à l'appareil. Dites-moi, vous avez des nouvelles d'Héloïse? Non? Non, parce que moi je suis très inquiet. Elle n'est pas à la maison, sa voiture est pas là, et puis j'ai l'impression qu'elle a quitté le domicile. Et oui, elle est partie avec deux valises. Et ce matin, elle m'a envoyé un drôle de message. La mère, à son tour, essaye d'appeler Héloïse. La sœur s'y met aussi. Et elle lui laisse plusieurs messages. En vain. Qu'elle se soit barrée comme ça, du jour au lendemain, sans crier gare, tout le monde est très surpris. Elle avait l'air heureuse, épanouie, avec Alain et leur petit garçon de 3 ans. D'autant que lui dit qu'ils ne se sont pas disputés. Et puis à côté de ça, il y a son sac à main qui est là. Et ça n'est pas le signe de quelqu'un qui se barre. Enfin, une femme qui plaque son compagnon prend son sac à main. Et puis il y a le gamin. Elle ne serait pas partie sans son gamin. Tout ça est très inquiétant. Et donc le soir même, Alain va voir les gendarmes. Et dès le lendemain, une enquête est ouverte pour disparition inquiétante. Et les gendarmes viennent tout de suite sur place, chez Alain et Héloïse. Et ils demandent à faire le tour de la maison, et dans la salle de bain. On dirait qu'il y a eu une bagarre, non, ici? Non? Le pommeau de douche, là. Il était cassé ce matin, monsieur, quand vous avez pris votre douche? Ah ben non. Et là, les tics entrent en action avec leur fameux Blue Star, ce liquide qu'on pulvérise et qui révèle les taches de sang. Oh! Regarde-moi ça. Il y a du sang, là. On voit qu'on a tenté de le nettoyer, mais il y a du sang. Et pas qu'un peu, dis donc. Hein. Regarde la traînée que ça fait jusqu'à la porte d'entrée. Et ce sang est immédiatement analysé. C'est celui d'Héloïse. D'Héloïse Bagnolini, c'est son nom. Elle ne s'est pas barrée. On l'a tuée, ici, dans sa salle de bain. Le lendemain matin, le téléphone sonne chez les gendarmes.
Allô? Bonjour, voilà... Il s'est passé quelque chose de grave. Je viens de recevoir un appel de mon cousin. Sa fille est arrivée chez lui ce matin. Elle a dit qu'elle avait fait une grosse bêtise. Elle a dit « j'ai tué une femme ».
Les gendarmes font tout de suite le lien avec la disparition d'Héloïse Bagnolini. Dites-moi, monsieur, vous pouvez nous donner le nom de cette jeune fille qui aurait tué une femme, dites-vous?
Oui, bien sûr. Oui, elle s'appelle Jessie. Jessie Travaglini.
Notez que la scène n'est pas banale. Les gendarmes viennent à peine de découvrir que la disparition d'Héloïse Bagnolini était en fait un meurtre, et le lendemain, on leur livre un coupable. En l'occurrence, une coupable. Et donc, ils se rencardent sur cette Jessie Travaglini. Ils apprennent qu'elle a 27 ans, qu'elle travaille chez Liebig, le fabricant de soupes industrielles, où elle est en charge des ressources humaines. Et surtout que c'est une très jolie fille. Elle s'est présentée à Miss Vaucluse, figurez-vous, il y a quelques années, et elle a terminé première dauphine. Dis-moi, d'après ce que t'as pu apprendre, là, elle est mariée, cette jeune femme ?
Oui, oui. D'après ce que j'ai pu apprendre, elle est mariée avec un entraîneur de rugby. Ça serait son premier amour, elle l'aurait connu quand elle avait 15 ans. Et ils ont un fils de 5 ans.
Et alors, cette Jessie Travaglini a-t-elle le moindre lien avec Héloïse Bagnolini, en dehors du fait qu'elles ont toutes les deux des noms italiens ? Eh bien, a priori, elles ne se connaissaient pas, ni de près, ni de loin. Mais en grattant un peu, pas longtemps, les gendarmes découvrent un lien, un sacré lien. Alain, le compagnon d'Héloïse, il travaille chez Liebig, il y est ingénieur. Il est même le numéro 2 de l'usine. Et en grattant encore un peu, ils apprennent que cette Jessie est en fait la maîtresse d'Alain, le mari d'Héloïse. Ils sont amants depuis plus de 3 ans. Toute l'usine est au courant. Cette pétroleuse de Jessie a emballé le numéro 2 de la boîte. À partir de là, quel scénario se dessine ? Eh bien, Jessie a tué Héloïse pour ne plus partager Alain avec elle. Ça paraît clair. Alors où est-elle, cette Jessie ? Le brave cousin qui a prévenu les gendarmes a dit qu'elle habitait chez son papa. Facile à trouver. Bonjour, monsieur. Est-ce que votre fille Jessie est là ? Jessie ? Il y a les gendarmes pour toi. Il la trouve prostrée dans le canapé. Il la ramène à la gendarmerie et il la place en garde à vue. Pas facile d'interroger Jessie Travaglini. Elle pleurniche tout le temps. Mais entre deux sanglots, elle finit par lâcher.
Oui, c'est moi qui ai tué Héloïse Bagnolini.
Bien. Maintenant, il faut nous dire ce que vous avez fait du cours, madame.
Il est dans sa voiture, dans le coffre de sa voiture. Je l'ai garé pas très loin de chez eux, dans leur lotissement.
Les gendarmes retrouvent la voiture, pas loin, à 2 rues. Et effectivement, le corps d'Héloïse est là, recroquevillé dans le coffre. Vous n'étiez pas heureuse dans votre couple, mademoiselle ?
Mon mari, vous savez, je le connais depuis que j'ai 15 ans. Oui, il aime la bière, le rugby, le poker. J'ai eu besoin d'aller voir ailleurs, de trouver du piment, quoi.
Et maintenant, on veut savoir comment ça s'est passé, forcément.
C'est Héloïse qui m'a fait venir chez elle. Dans la nuit, à 2 heures du matin, elle m'a envoyé un SMS qui disait « Salut, c'est Héloïse, je suis au courant pour ta relation avec Alain. Si t'as du cœur comme moi de protéger ta famille, je te propose qu'on en discute à la maison ce vendredi à partir de 6h30. » Quand on a commencé à discuter, elle m'a dit qu'elle savait qu'Alain l'a trompé avec moi. Elle voulait savoir depuis combien de temps ça durait. Je lui ai dit la vérité, 3 ans et demi. Je lui ai dit que ça avait commencé le lendemain de jour où elle avait annoncé à Alain qu'elle était enceinte, quoi.
Et là, Jessie dit qu'à ce moment précis, Héloïse a perdu son sang-froid, qu'elle serait devenue violente.
J'ai voulu me réfugier dans la salle de bain, mais elle m'a rattrapé. Et puis on a commencé à se battre. À ce moment, elle m'a fait tomber. Je me suis cogné la tête contre la baignoire. J'étais à moitié assommé, quoi. J'ai juste voulu me défendre.
Mais comment vous vous êtes défendu, madame ?
Eh bien, je me suis mis à califourchon sur elle. Et je l'ai étranglé. Avec la serviette. Je voulais juste que ça s'arrête. J'ai pas voulu la tuer. Je regrette.
Elle dit qu'elle a réalisé qu'elle l'avait tuée en voyant du sang sortir de ses narines. À ce moment-là, elle a pris son pouls elle s'est aperçue qu'elle ne respirait plus. Vous avez compris ce qui se joue dans ces aveux. Jessi Travaglini laisse entendre que c'est de la légitime défense, qu'elle n'a fait que se défendre, se protéger. Comment est-ce que ça se passe, madame, après, quand vous constatez que madame Bagnolini est morte?
J'étais complètement paniqué. Et là, j'ai eu l'idée de faire croire à son départ volontaire. C'est pour ça que j'ai pris des valises, que j'ai mis ses affaires dedans. Et après, j'ai mis le corps dans le coffre. Et je suis allé garer la voiture pas loin de un pavillon qui me paraissait vide, quoi.
À partir de maintenant, c'est tout l'enjeu de l'enquête qui commence. Est-ce que c'est de la légitime défense ou pas? Ou au contraire, est-ce que Jessi est venu chier Héloïse pour la tuer? Parce que selon le scénario retenu, ça n'est pas la même limonade. Si on retient la légitime défense, elle peut s'en sortir avec 8 ans, 10 ans. Mais si c'est un assassinat planifié, c'est possiblement perpète. Le corps d'Héloïse a été envoyé à l'Institut médico-légal de Nîmes et on verra si le résultat des autopsies colle avec le récit de Jessi. En attendant, il y a plusieurs choses à vérifier. Et d'abord, est-ce qu'Héloïse savait que son compagnon, Alain, avait une liaison avec cette Jessi? Et du coup, est-ce qu'elle a vraiment convoqué Jessi chez elle? Les gendarmes interrogent les mamans des enfants qui fréquentent la même école que le fils d'Héloïse et Alain.
Ah, mais moi, j'ai remarqué que ce matin-là, elle était, comment dire, plus apprêtée, je dirais, que d'habitude. Elle était maquillée, tout ça, pomponnée, vous voyez, et bien coiffée, quoi. Beaucoup plus que d'habitude. Moi, je me suis dit qu'elle avait un rendez-vous.
Donc, un point pour Jessi. Héloïse s'est mise sur son 31 pour affronter sa rivale. Ça sent le traquenard. Et puis, il y a le SMS qu'Héloïse adresse à Alain le jour même. Je vous le relis. « Il va falloir que tu te libères tôt, car j'ai un empêchement pour aller chercher le petit à l'école. Vas-y, moi j'ai besoin de calme. » Est-ce que derrière ce « j'ai besoin de calme », il ne faut pas lire « j'ai découvert ton petit jeu, tu me trompes, il faut que je me calme ». Peut-être, mais pas sûr. Parce que la sœur d'Héloïse raconte qu'avec Alain, il parlait de se marier. Et d'avoir un deuxième enfant, autrement dit, elle n'était pas au courant. Elle ne savait pas que son mec avait une maîtresse. Elle n'avait aucune raison de convoquer Jessi et de lui sauter sur le poil. D'autant que la sœur ajoute...
De toute façon, vous savez, Héloïse était plutôt la fille qui fuyait les conflits. C'était pas du tout le genre à aller à l'affrontement. C'était pas son caractère du tout.
Et ça, entre nous, tout son entourage le dit. Héloïse était douce, pas du tout le profil à se battre. Tout porte à croire que Jessi Travaglini dit n'importe quoi quand elle décrit Héloïse comme une furie qui a failli la tuer. Et Alain, tiens, le mari d'Héloïse et l'amant de Jessi. Qu'est-ce qu'il en dit, tout ça?
Moi, je suis certain qu'Héloïse ne savait rien pour Jessi. Certain. Et en revanche... Jessi, elle est malsaine. C'est une menthe religieuse. À partir du moment où elle a jeté son dévolu sur moi, elle voulait, comment dire, me posséder. C'est le genre de femme qui ne recule devant rien.
Qu'est-ce qui vous a attiré chez Jessi Travaglini, monsieur?
Je dirais une attirance sexuelle.
Et là, sur son téléphone, il montre aux gendarmes des photos d'elle en lingerie, des photos qu'elle n'arrêtait pas de lui envoyer.
J'ai pas trouvé la force, quoi. J'ai pas trouvé la force de lui résister. Mais à chaque fois que je rentrais chez moi, c'est vrai que ça a duré 3 ans, mais à chaque fois que je la voyais, je me disais, c'est la dernière fois. Ça peut pas continuer comme ça.
Et là, Alain raconte un truc qui vient te éclairer cette enquête criminelle. Avec Jessi, il s'était fixé une règle. Ils s'embrassaient, ils se caressaient, mais jamais de pénétration. Ils en restaient depuis 3 ans au préliminaire. Sacrément frustrant, non? pour l'un comme pour l'autre. Et c'est pas tout. C'est toujours elle qui était censée l'appeler, jamais lui. Et ça ne se passait jamais chez l'un ou chez l'autre. Ça se passait dans la voiture ou à l'hôtel. Et ils ne passaient jamais la nuit ensemble. Et après le rendez-vous, chacun rentrait chez soi. Dites-moi, monsieur, j'ai si Travaglini accepté ces règles contraignantes ? Non. Non, elle ne les supportait pas. Elle devenait agressive, elle me harcelait. Pour vous dire à quel point, récemment on est parti une semaine au ski avec Héloïse et notre fils. Eh bien, elle a réservé dans la même station de ski que nous. J'en pouvais plus. Et très peu de temps avant la mort d'Héloïse, j'ai décidé d'arrêter avec elle. Je lui ai dit que je voulais me faire muter et déménager pour plus avoir à la croiser. Et comment a réagi Madame Travaglini quand vous lui avez annoncé ça, monsieur ? Elle m'a dit, maintenant ça va vous paraître lumineux, hein ? Elle m'a dit, maintenant je sais ce qu'il me reste à faire. Tuer Héloïse, par exemple ? Ça y est, on a les résultats de l'autopsie. Ils sont très intéressants. D'après le doc, Jessie a mis au moins 7 minutes pour étrangler Héloïse. 7 minutes. On n'est pas dans la légitime défense, là. 7 minutes. On a le temps de réfléchir. Si je desserre, elle s'en sort. Mais si je serre, elle meurt. Or, Jessie serre. Et elle serre pendant 7 minutes. Autre chose, les gendarmes ont examiné les portables d'Héloïse et de Jessie. Jessie a dit qu'Héloïse lui a envoyé un SMS la nuit, l'assommant de venir chez elle pour régler leur compte. Eh bien, ce SMS n'existe pas. Il n'a jamais existé. On ne le trouve pas. Jessie Travaglini a menti sur ce point aussi. Et puis, il faut que vous sachiez que les gendarmes, bien sûr, ont perquisitionné chez Jessie Travaglini. Et savez-vous ce qu'ils ont trouvé ? Ils ont trouvé l'emballage d'un pistolet taser. Vous savez, ce genre de pistolet qui envoie des impulsions électriques qui paralysent l'adversaire. Elle est allée l'acheter à l'autre bout du département. Elle a donc fait des préparatifs. Ça sent la préméditation. Ce qui renforce aussi l'idée d'une préméditation, c'est ce moment où on découvre que le jour du crime, Jessie était en congé. Congé qu'elle avait posé une semaine avant. Congé dont elle n'a pas parlé à son mari. Et puis, chez Liebig, les collègues racontent un autre potage au sujet de Jessica Travaglini. Elle a eu un autre amant à l'usine. Et donc, les gendarmes vont interroger la femme de cet amant, qui raconte qu'elle a découvert le poteau rose quand elle a trouvé le numéro de Jessie dans le répertoire de son mari. En femme bafouée, elle l'a appelé pour lui demander d'arrêter de la voir. Oh ben, elle n'a pas lâché l'affaire, hein. Au contraire, elle l'a relancée. Moi, j'ai clairement senti qu'elle voulait briser notre couple, hein. Et vous avez cherché à la rencontrer ?
Oui. On s'est vus dans un café.
Qui a proposé la rencontre ?
Elle. Elle, Jessie.
Elle m'a répété 100 fois qu'elle avait 26 ans, qu'elle était plus jeune que moi.
Elle était d'une arrogance.
Elle m'a dit que j'avais aucune chance de le garder. La preuve qu'elle s'est trompée puisque mon mari a fini par la lâcher. Oui, je sais ce que vous vous dites. Toutes les maîtresses amoureuses ne sont pas des meurtrières. Et à fouiller comme ça dans l'intimité de Jessie Travaglini, l'enquête se perd un peu. Mais enfin, reconnaissez que petit à petit se trace un portrait. Le portrait d'une femme manipulatrice, prédatrice avec les hommes. Une femme que l'impossibilité de posséder ses amants rend folle. Et comme tout laisse penser qu'elle avait préparé son coup, eh bien le chef de mise en examen de Jessie Travaglini est requalifié. Jusqu'ici, c'était un homicide volontaire. Désormais, c'est un assassinat. Voilà donc le scénario que retiennent les gendarmes et le juge d'instruction. Il est très éloigné des aveux initiaux de Jessie. Très éloigné. Le 11 octobre à 9h du matin, Jessie est en congé. Elle va d'abord chez un fleuriste, où elle achète un bouquet de fleurs. On a trouvé la trace de cet achat. On suppose que c'est pour ne pas éveiller le soupçon, notamment le soupçon des voisins. Il faut que ça ressemble à une visite de courtoisie. Elle sonne, Héloïse lui ouvre la porte, et là elle sort son taser, elle la menace. Héloïse se réfugie dans la salle de bain, elle la poursuit. Une lutte s'engage, Héloïse reçoit un coup de sèche-cheveux sur la tête, elle est sonnée. Jessie se met à l'étrangler avec une serviette de toilette qu'elle a préalablement tordue. Et ensuite, avec un sang-froid incroyable, elle évacue le corps en le traînant jusqu'à la voiture d'Héloïse. Et elle tente de faire croire qu'elle a quitté Alain. Et après, on suppose qu'elle est allée jeter toutes les pièces à conviction qu'on n'a pas retrouvées, c'est-à-dire le taser, le téléphone d'Héloïse, la serviette de toilette et le sèche-cheveux, dans le Rhône. Et dans l'art de la dissimulation, la suite est assez amusante, puisque dans la bagarre, Jessie a reçu des coups. Elle a un nion sur la figure. Et ça va se voir. Et donc on va la soupçonner. Et là, elle a une idée. Elle a rendez-vous avec une amie. Elle arrive à ce rendez-vous avec le bouquet de fleurs qui lui cache le visage. Et là, d'un coup, elle tombe. Enfin, elle fait semblant de tomber. Oh, c'est ballot, je me suis blessé le visage. Sa copine y croit tellement qu'elle l'emmène aux urgences. Machiavélique. Cette femme est machiavélique. Mais le lendemain matin, elle va voir son père pour tout lui avouer. Elle veut qu'il l'aide à brûler le corps, qu'il devienne en quelque sorte son complice. « Papa, j'ai besoin d'aide. » Le père refuse, il appelle son cousin, il lui raconte tout, et le cousin prévient les gendarmes. Et le stratagème de Jessie est révélé. Entre nous, je pense que même si le cousin n'avait pas appelé les gendarmes seraient forcément tombés sur elle. Voilà. L'enquête est bouclée. Jessie Travaglini est renvoyée devant la cour d'assises. Le procès s'ouvre le 1er février 2016, c'est-à-dire 3 ans après le meurtre, devant la cour d'assises du Vaucluse, en Avignon. Pour assassinat, Jessie encourt perpétuité. Mais raisonnablement, dans le cadre d'une passion amoureuse, elle peut espérer moins. Mais pour ça, il faudrait au moins qu'elle se comporte bien devant la cour d'assises. Or, elle est terriblement arrogante, méprisante, au point qu'elle fixe les yeux dans les yeux la mère d'Héloïse. Celle-ci est tellement mal à l'aise qu'à un moment, elle doit changer de place pour ne plus être dans l'axe du regard de celle qui a tué sa fille. Malgré toutes les charges accumulées contre elle, Jessie Travaglini en reste à son scénario initial. Celui de ses aveux, c'est un accident, c'est un malencontreux accident. Elle ne voulait pas la tuer, elle n'a fait que se défendre. Elle s'est sentie en danger. Et son avocat, maître Louis-Alain Lemaire, est tenu à cette ligne. Elle n'a jamais voulu donner la mort à Héloïse Bagnolini. C'est une bagarre qui a mal tourné. Sa tête a heurté la baignoire, elle a eu peur, et donc elle a rendu les coups. Ce n'est pas parce qu'ensuite elle essaye de cacher la chose qu'elle a prémédité son geste. L'avocat qui développe par ailleurs un argument qui n'est pas inintéressant. Ce pacte qu'ils avaient noué tous les deux. Ce refus d'Alain d'avoir des relations complètes avec elle. Ce refus de la pénétrer. Il a généré de la frustration sexuelle. Et c'est cette frustration qui est l'étincelle du meurtre. Ça se tient. Mais à côté de ça, il y a tous les mensonges de Jessie. Elle continue de dire qu'Héloïse est morte très vite alors que le légiste maintient à la barre qu'elle l'a étranglée pendant 7 minutes au moins. L'avocat général résume la situation. La préméditation ne fait aucun doute, aucun. C'était l'exécution d'un plan quasi militaire. En conséquence de quoi je vous demande une peine qui ne saurait être inférieure à 30 ans de réclusion criminelle. Arrive le moment du verdict. Les jurés, figurez-vous, ne retiennent pas la préméditation. Avec un argument d'ailleurs très intéressant, le taser qu'elle a utilisé n'est pas une arme létale. Ça n'est pas une arme faite pour tuer. En revanche, la peine qu'ils infligent à Jessie Travaglini est très lourde. 30 ans. 30 ans de réclusion criminelle. ce prix-là, évidemment, elle n'a rien à perdre à faire appel, c'est ce qu'elle fait. Elle est rejugée en juillet 2017 à Nîmes, où naturellement elle change de stratégie, elle se montre plus humaine. Mais ça ne change rien, car de nouveau, la préméditation est écartée, mais elle est à nouveau condamnée à 30 ans de réclusion criminelle.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur Europe 1.fr.